aspire. Ce que fait Edith Stein, en fait, elle enseigne, elle fait des conférences, elle écrit aussi, elle en profite pour écrire les livres, en fait, qu'elle ambitionnait d'écrire, en fait, qu'elle voulait écrire. Elle va écrire une introduction à la philosophie, elle va écrire sur la phénoménologie, elle va participer à des hommages, en fait, elle va contribuer, elle va écrire des articles dans un livre d'hommage à Husserl, en fait, aussi en défendant sa vision de la phénoménologie elle-même. Donc, elle va finalement pouvoir participer à ce rêve. Elle va pouvoir, pardon, réaliser plutôt ce rêve qu'elle avait, ce rêve d'être utile à la philosophie, de créer, en tout cas, d'écrire pour la philosophie, de transmettre la philosophie. Un fait important aussi, Edith Stein va écrire plus tard, je dis ça avant de parler de son entrée au Carmel, va écrire plus tard, pour se donner, il faut d'abord savoir se tenir en main. Et toute sa vie, c'est ça, c'est ce qu'elle a fait. Pour se donner, il faut savoir se tenir en main. Il faut se tenir en main d'abord pour pouvoir se donner. Et se tenir en main, c'est ce que Edith Stein a fait pendant toute son adolescence jusqu'à, on peut dire, sa conversion, son baptême. Son baptême est aussi en se donner, se donne au Christ. Je reviens sur l'adolescence. Edith était, toute petite, était colérique. Elle perdait vite, voilà, et la maîtrise de soi quand elle était petite. Mais elle l'écrit à 7 ans. À 7 ans, elle comprend qu'elle ne peut pas vivre comme ça. Elle comprend qu'à chaque fois que ça lui arrivait, elle avait honte après. Et c'est là qu'elle commençait à se maîtriser, à se tenir en main. Et pendant toute sa vie, toutes ses décisions, ses choix, c'est en quelque sorte, c'est se tenir en main aussi. Et vivre, on peut lier tout ça à son choix de vivre la vie en profondeur. Et son choix d'être baptisé aussi, c'est en quelque sorte à se tenir en main. C'est à se tenir en main parce que là, elle est capable de décider. Elle n'est pas obligée. C'est vrai que ça va faire mal à sa famille. Elle le sait, sa famille n'allait pas bien accueillir, en fait, tout ça. Mais elle a décidé de se prendre, de se tenir en main. Et vient le moment de se donner, le don de soi. Alors, Edith va écrire plus tard que depuis son baptême, son but était le Carmel. Mais il avait deux directeurs spirituels. Son directeur spirituel ne l'encourageait pas à entrer au Carmel. Voilà, et voilà, mais elle avait toujours ce désir. Le choix d'entrer au Carmel en 1933, donc le 14 octobre 1933, est un choix après beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps de désir. Et pour Edith Stein, c'était une réalisation. Et elle va comprendre son entrée au Carmel comme cela, comme finalement les portes du Christ sont ouvertes pour elle. Donc elle entre au Carmel et prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Thérèse Bénédicte, son nom de baptême c'était Thérèse Edwige. Donc Thérèse Bénédicte de la Croix. Thérèse, bien sûr, pour Sainte Thérèse d'Avila. Bénédicte pour Benoît. Et de la Croix, à la fois pour Saint Jean de la Croix, qui est aussi un de ses maîtres spirituels, mais aussi pour le mystère de la croix. Parce que le mystère de la croix, d'ailleurs la foi chrétienne, en fait, c'est aussi ça. Le mystère de la croix va avoir une importance capitale dans la vie de Wittgenstein, de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Alors, la vie au Carmel n'était pas très facile pour Wittgenstein non plus. Parce qu'elle est arrivée, bien sûr, quand même, pas jeune, mais avancée en âge quand même. Et elle est aussi une intellectuelle déjà à cette époque-là. La supérieure va lui permettre de continuer à écrire, en fait, ses recherches philosophiques, à écrire en philosophie. Elle va étudier Saint Thomas, déjà un peu avant avec son directeur spirituel, mais elle va étudier le lien entre la phénoménologie et le thomisme, donc la philosophie de Saint Thomas. Elle va pouvoir continuer, mais on peut comprendre bien sa vie pour les autres sœurs, parce qu'Edith veut être comme toutes les autres. Elle ne veut pas être une carmélite particulière. Elle veut être comme toutes les autres. Mais c'est compliqué. Tu es Edith Stein, c'est compliqué. En 1939, lorsque les choses commencent à devenir compliquées, elle est transférée au Carmel d'Echt en Hollande. Donc, du Carmel de Cologne, où elle est entrée le 14 octobre 1933, elle est transférée en 1939 au Carmel d'Echt en Hollande. Alors, comme juive, donc sa vie est menacée. Elle demande un visa pour la Suisse qu'elle n'a pas obtenu. Et voilà, et en 1942, elle est déportée à Auschwitz avec d'autres juives et sa sœur aussi. Elle y est décédée en 1942. Edith Stein aurait croisé aussi Etty et les autres. Donc, elles ne se sont pas connues voilà, pendant longtemps, mais dans ce court moment de leur vie, oui. Je ne sais pas si vous avez des questions sur.
Même baptisé, on pouvait être déporté comme juif, en fait.
Ah oui, c'est pas. C'était pas une. Voilà, oui, c'est pas. C'est pas, oui. Ça n'a rien à voir avec. Parce que l'on. Pratiquant ou pas, si, même un juif qui n'était pas pratiquant était déporté, donc du coup. Etty, Idesum, c'est une figure aussi très très belle de. Très simple.
La vie bouleversée.
C'est ça qu'elle a écrit, ce sont ces. La vie bouleversée, c'est vraiment, c'est recommandé à lire. C'est très beau. Donc, ainsi passe la vie en fait, d'Edith Stein qui a produit en fait, beaucoup. Là, je n'ai pas. On verra après en fait ses œuvres. L'idée c'était pas ce matin d'étudier les œuvres d'Edith Stein, mais c'est un peu d'esquisser un peu son itinéraire de vie. Et le 1er mai 1987, Edith Stein est béatifiée à Cologne par le pape Jean-Paul II. Et béatification qui a eu un double effet. À la fois, beaucoup ont redécouvert, ou ont découvert tout simplement, cette figure, en fait, la figure de Wittgenstein. Et il y avait une polémique, en fait, parce que la communauté juive estime que, avec cette béatification, les catholiques s'approprient, voilà, récupèrent ces événements, en fait, les événements de la Shoah. Donc ça a créé quand même une grande polémique, parce que elle était juive, et du coup on se remet beaucoup à parler de la Shoah, mais cette foi, en fait, et pour une figure qui est chrétienne, en plus qui est religieuse, en fait, carmélite, en fait, c'était un bouleversement voilà, total qui a créé quand même pas mal de
Il y avait le
polémiques.
Carmel à Auschwitz aussi qui s'est installé, et
Oui.
la communauté juive a fait des
Oui.
manifestations pour qu'il
Pour,
parle
oui, exactement, ouais.
sans céder à aucun moment. Et c'est Jean-Paul II d'ailleurs qui les a convaincus l'une après l'autre de quitter
Oui, c'est ça.
Auschwitz parce que
Ouais.
les carmélites étaient
Ouais.
effondrés.
Voilà, cette béatification a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de polémiques, en tout cas. Et finalement, Edith Stein sera canonisée le 11 octobre 1998 à Rome, sur la place de Saint-Pierre. Et dans l'homélie, une belle homélie que vous pouvez lire sur Internet, je pense, du pape Jean-Paul II, Jean-Paul II dit, et commençait ainsi, pendant longtemps, elle vécut l'expérience de la recherche. Son esprit ne se lassa pas de chercher et son cœur d'espérer. Elle parcourut le chemin difficile de la philosophie avec une ardeur passionnée. À la fin, elle fut récompensée. Elle conquit la vérité, ou plutôt, elle en fut conquise. Pendant longtemps, elle vécut l'expérience de la recherche. Son esprit ne se lassa pas de chercher et son cœur d'espérer. Elle parcourut le chemin difficile de la philosophie avec une ardeur passionnée. À la fin, elle fut récompensée. Elle conquit la vérité, ou plutôt, elle en fut conquise. Edith Stein dira elle-même, qui cherche la vérité, cherche Dieu. Donc, cette quête de la vérité, cette soif de la vérité chez Edith Stein n'était autre chose qu'une quête de Dieu, qu'une soif de Dieu. Et qu'elle a trouvée, bien sûr, finalement, dans la vie chrétienne, dans cette vie de foi. Juste un petit mot aussi sur Jean-Paul II, qui lui aussi, parce que on en parle très peu. Jean-Paul II aussi était un philosophe, était un phénoménologue. Parce que Jean-Paul II a aussi étudié, a fait une thèse en philosophie. Et d'ailleurs, il y a de très beaux livres, en fait, de philosophie de Jean-Paul II, Amour et responsabilité. C'est voilà, c'est très beau, c'est toute la phénoménologie du don de soi, en fait. Et
Et
responsabilité. Donc, on peut imaginer, je pense, et c'est peut-être sûr que Jean-Paul II a aussi beaucoup lu Edith Stein, et peut-être que Edith Stein était aussi une des figures, avec Max Scheler, quand même qui a été pour Jean-Paul II une figure aussi en philosophie, mais Edith Stein a aussi, en fait, je pense, inspiré Jean-Paul II. Et c'est sûr qu'il a lu les œuvres d'Edith Stein. Et la fête d'Edith Stein, c'est le 9 août, de Sainte-Thérèse-Bénédicte de la Croix. Et depuis le 12 octobre 2006, Benoît XVI a nommé, en fait, Edith Stein copatronne de l'Europe. Et peut-être elle sera docteur de l'Église, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est aussi, en fait, c'est possible. Il y a des questions?
Juste un
Oui.
petit rappel avant que
Oui.
je ne
Oui.
l'ai pas entendu.
Oui.
Le lien particulier entre la phénoménologie et l'apport de saint Thomas
Ah
d'Aquin.
oui, alors je n'ai pas encore développé, je l'ai évoqué.
D'accord.
Oui, ça serait un travail, en fait, que Edith Stein va faire, en fait, une réflexion que Edith Stein va faire pendant ce qu'on peut appeler la période carmélitaine de sa vie, où elle va confronter la phénoménologie avec la philosophie de saint Thomas, où elle va montrer, finalement, qu'elles sont complémentaires, ces deux philosophies. C'est que la phénoménologie pour Edith Stein reste ça permet d'anticiper un peu sur la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est la phénoménologie? Alors, pour résumer, vraiment, en quelques mots, c'est décrire les phénomènes. Et c'est ce que vous faites et on fait tous les jours. Et surtout quand on va chez le médecin. Quand on va chez le médecin vous demande qu'est-ce que vous sentez, comment vous sentez-vous. Vous décrivez, voilà, j'ai mal ici, je me sens. Le médecin a besoin de ça. En fait, c'est ça. C'est ce que on peut, si on veut caricaturer, résumer, mais vraiment bien résumer, ce qu'est la phénoménologie, c'est décrire les phénomènes. Alors, qu'est-ce que ça vient faire en philosophie? Au début, je disais que Husserl voulait sortir de l'idéalisme. En fait, Husserl dit pour connaître en fait la connaissance, pour connaître la réalité. Et en général, lorsqu'on est devant un phénomène, ce que Husserl appelle un phénomène, c'est n'importe quel fait. Hein. Ça, c'est un phénomène. Okay. Un phénomène, c'est une chose, une réalité, un objet. Qui peut être un objet comme ça, qui peut être une émotion, donc un événement, un fait. C'est ça un phénomène. C'est pas, voilà. Voilà. Comment?
Oui. Non, le pape.
Le?
Non, rien.
Donc, Husserl, en fait, dira que souvent, ce qui arrive, c'est que on a plein d'a priori qui fait qu'au lieu d'écrire, on explique. On va tout de suite essayer de définir par des notions. Par exemple, je vous demande, voilà, on a pris du café, en fait, et si je dois pas, comment? On va prendre aussi, ouais. En fait, une tasse de café, ben, si on me demande de parler d'une tasse de café, peut-être, pour montrer que peut-être que je suis pas terre à terre, je vais commencer à définir le café, la plante, les arômes. Alors, Husserl nous dit, c'est mon expérience du café. C'est ça, décrire le phénomène, c'est dire mon expérience de la chose. Comment moi, je vis la chose. C'est ce qu'il appelle le vécu. Le vécu de la chose. Donc, décrire les phénomènes, c'est, comme le mot le dit, savoir décrire ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Alors c'est ça qui a attiré Edith Stein. Vous comprenez bien, en fait, il y avait de quoi être attiré par cette philosophie qui faisait qu'on sortait en quelque sorte de toutes ces... Même si après on va revenir aux essences, en fait, à toutes les notions, mais le point de départ, c'est ça, c'est décrire. Et pour décrire les phénomènes, Husserl va proposer une méthode avec un mot qui vient du grec qu'il appellera époké. Époké signifie mettre entre parenthèses, suspendre le jugement. Suspendre le jugement, c'est-à-dire c'est arrêter de dire ce que je pense, ce que j'ai appris de telle chose, mais dire ce que je vis de la chose. Oui.
Alors, en phénoménologie,
oui.
Comment est-ce qu'on fait le lien entre la description du phénomène et le passage ensuite à l'analyse? Comment ça se passe? Il y a quand même un passage à l'analyse.
Il y a un passage.
Alors,
oui.
comment ça se fait cette transition entre la description et le passage
Alors, après avoir décrit le phénomène, c'est l'époque, ben la description du phénomène fait que je découvre l'essence, les essences. Je découvre les essences à travers ça. Donc, après, il y a toutes les notions que j'ai apprises, en fait, de cette chose-là que je vais pouvoir mettre en relation avec cela, en fait. Il n'y a pas... C'est pour éviter de tomber dans l'idéalisme qui fait que
j'ai une idée
Voilà, exactement. Avant de faire l'expérience, oui, exactement, de la chose. Comment ?
C'est le sensible, le risque, c'est de... Oui. Une approche du préjugé dans le sensible, dans
aussi.
Dans le interprétatif.
Oui, mais en même temps, ce n'est pas de l'empirisme en fait pur. En fait, mais parce que décrire le phénomène, c'est décrire le phénomène avec tout ce que cela évoque en moi. En fait, c'est les sentiments, ce que cela évoque. En fait, tout ce que cela me dit, une tasse de café. Et qu'est-ce que c'est pour moi, par exemple?
Alors c'est quand même, oui, voilà, c'est très subjectif. Alors, parce que, du coup, il y a plusieurs vécus de la tasse de café en fonction de la personne.
Alors c'est ça le risque, c'est que s'il y a plusieurs vécus, c'est normal en fait. Comment je vis, mon expérience de la tasse de café ne sera pas votre expérience de la tasse de café. Alors qu'est-ce qui reste?
C'est à partir de cette somme d'expérience, il va falloir qu'on aille chercher le...
Ouais. Alors, et c'est ça que, en fait, c'est pas la somme des expériences qui vont faire la vérité, bien sûr, oui, ça aussi, mais c'est que les phénoménologues arrivent au fait que la vérité, on va dire, c'est la donation, c'est le fait que cet événement est là, c'est la tasse de café, la donation. Okay. La donation qui est la même pour tous, c'est-à-dire c'est une tasse de café. Que vous voyez, en fait, c'est cette donation, ce qu'on appelle, ce que les philosophes, les phénoménologues appellent la donation originaire, voilà, un peu plus tard, c'est ça en fait, c'est la tasse de café. C'est le fait que cette tasse m'est donnée, c'est la chose telle qu'elle se manifeste.
C'est vouloir épurer. C'est vouloir épurer le...
Oui, dans un premier temps, c'est ça. C'est...
Conscience.
Oui, voilà. Dans un premier temps, c'est ça. C'est épurer, si on peut dire, voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on pourrait, qui pourrait influencer mon jugement sur le phénomène, et suspendre ce jugement pour faire l'expérience de la chose. Oui.
Vous savez qu'on s'éloigne beaucoup de ça, parce que la phénoménologie, on l'utilise beaucoup dans l'art de la guerre. L'analyse des événements, je vous assure, c'est l'école militaire, c'est ce qu'on donne.
Là, on l'utilise pas
tout. Analyser les événements en ayant le moins de, en s'impliquant le moins possible. Analyser un phénomène et puis après en tirer évidemment des conclusions. Mais vraiment, c'est la base de toutes les écoles militaires.
Mais
de retrouver Einstein maintenant.
Oui, non, mais sauf que là aussi, peut-être on l'utilise comme ça, mais quand j'analyse, et c'est ce que Husserl et surtout les phénoménologues aujourd'hui, en fait, Michel Henry, sur qui je travaille, vont dire aussi, c'est que lorsque j'analyse, lorsque je fais l'expérience, il y a ce mot, en fait, qui va avoir beaucoup de sens chez Husserl, c'est la conscience. Ma conscience, c'est-à-dire, c'est moi, c'est le moi. Je ne peux pas, s'il y a quelque chose dont vous dites prendre cette distance, dans le sens où, voilà, je me mets en dehors de tout ça. Mais on ne peut pas, parce que c'est mon expérience de la chose.
Bien sûr.
C'est pas une méthode d'analyse à froid, mais c'est vraiment mon, en fait, c'est vraiment mon vécu.
C'est la démarche qui nous intéresse.
Voilà. Comment ?
C'est la démarche qui est intéressante.
Oui, oui.
C'est d'essayer d'analyser, enfin de décrire un phénomène en essayant d'avoir le plus de distance possible, tout en sachant qu'on n'a pas.
Oui, oui, exactement.
C'est ce que vous dites.
C'est prendre cette distance, pas par rapport à l'événement, pas par rapport au phénomène. C'est par rapport, la suspension du jugement, c'est par rapport à ce qu'il y a autour, en fait. C'est les a priori. Mais c'est faire une expérience. C'est encore... J'ai envie de dire, c'est peut-être encore beaucoup plus se plonger. C'est beaucoup plus se plonger que prendre cette distance, parce que c'est dire, ok, je suspends le jugement pour faire l'expérience de la chose. Vous voyez
ce que je veux dire? Encore plus attentif.
Voilà. L'attention, c'est d'ailleurs, sera un des sujets, des thèmes de réflexion en phénoménologie qui sera important. Être attentif, voilà, l'attention que l'on prête aux choses, en fait. Si, en fait, c'est un peu ça. La phénoménologie apprend à s'éveiller à ce qui se passe autour, plutôt en fait. Je comprends ce que vous dites parce que dans un premier temps, on peut. Là, c'est la méthode d'analyse scientifique qui veut que l'on prenne distance par rapport à son objet d'étude pour ne pas. Ok. Mais l'attitude phénoménologique n'est pas cet objectivisme-là. Parce que là, ce que vous dites là, c'est de l'objectivisme en fait. C'est vraiment en fait. Ouais. Mais là, c'est. En quelque sorte, faire une vraie expérience de la chose, du phénomène, comme en fait on les appelle. Donc, il faut s'arrêter. Bon, on a encore 5 minutes, non?
Oui. Ah ouais. Et 5 dernières minutes.
Ok. Qui sont importants.
C'est les meilleurs.
D'où vient chez Husserl cette méthode, comme il l'appelle, parce qu'il l'appelle plutôt une méthode. Ce que promet Husserl à ses étudiants, je ne vous enseigne pas un courant de philosophie, je ne vous enseigne pas un système de philosophie, je vous donne une méthode. Voilà. Je vous donne une méthode. Et nous pouvons retrouver la racine de cette méthode, en tout cas, chez un autre philosophe qui s'appelle Franz Brentano, qui était un thomiste, chez qui Husserl a appris ou a hérité, Franz Brentano était aussi un professeur de Husserl, un autre concept qui sera important dans la philosophie, dans la phénoménologie, c'est le concept d'intention. Intention. L'intentionnalité. Le principe de la phénoménologie, parmi les principes que Husserl a canonisés, il y a autant d'apparaître, autant d'être. C'est-à-dire, c'est la chose telle qu'il m'apparaît, c'est son être. Ok, en fait, c'est ça, en fait, c'est faire l'expérience de la chose. Mais un autre principe important, c'est, chez Husserl, c'est toute conscience est conscience de quelque chose. C'est ça, l'intentionnalité. Toute conscience est conscience de quelque chose. J'avais dit, en fait, tout à l'heure que la conscience, c'est ce qui nous met en rapport avec les phénomènes. C'est la conscience, c'est-à-dire ma conscience du phénomène, mon vécu du phénomène. Et ça, c'est là l'existence et l'équilibre que Husserl va trouver entre un subjectivisme et ce qu'on pourrait appeler un pur empirisme. C'est qu'il y a la conscience qui est important pour pouvoir faire l'expérience de la chose, mais toute conscience est conscience de quelque chose. C'est-à-dire, l'objet, il ne peut pas y avoir, l'objet n'existe pas, ou la conscience n'existe pas, sans qu'il y ait son objet.
On ne peut pas être conscient de sa conscience.
On ne peut pas ? Oui, c'est ça, ce sera l'objet, dans ce cas-là, sera, oui. C'est ce qui arrive lorsqu'on réfléchit sur soi. C'est ce qui arrive lorsqu'on réfléchit, par exemple, sur ses propres émotions. Okay? C'est que toute l'intentionnalité telle que Husserl l'entend, et Franz Brentano, c'est le fait que notre conscience est toujours tendue vers un objet. C'est-à-dire, toute conscience est consciente de quelque chose, c'est qu'il y a toujours... C'est le fait que la conscience pure, on va dire, la conscience pure, est-ce qu'elle existe? Juste conscience comme ça. Si, par exemple, si je vous dis, essayez de ne penser à rien. Essayez de ne penser à rien.
Moi, je ne peux pas.
C'est possible, mais pas longtemps.
Ah non, moi, je ne peux pas.
Ah oui?
Je ne peux pas me yoga.
Est-ce que vous avez essayé de faire l'expérience là, une expérience mentale comme ça? Essayez de ne penser à rien.
Ben, je pense que j'y arrive de temps en temps, j'aime bien le faire. Mais ça dure une seconde, deux secondes.
C'est lorsque vous dites vous êtes ailleurs?
Non. pas ailleurs, pense à rien.
Pensez à rien.
On ne pense pas. On ne pense pas. À rien, c'est ne pas penser.
Ne pas penser.
Oui.
Faire le silence en soi.
Est-ce que ça peut être une absence à soi-même? Une absence à soi?
On peut, oui, mais on est présent à autre chose si on est absent à soi.
C'est un petit peu ce qu'on nous demande dans la méditation parfois. Oui, mais en fait, on s'aperçoit vite que ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a des moyens de ne pas penser qui nous obligent à fixer quelque chose. Quoi.
Oui, mais dans la méditation, en tout cas la méditation chrétienne, on est présent à Dieu. En fait, oui, on voilà, est. C'est-à-dire, il y a toujours.
Pensée.
Voilà.
Pensée. Et on parle même... de méditation en pleine conscience.
Comment?
Oui. On parle de méditation en pleine conscience.
C'est même mieux, quand même. Mmh. C'est même mieux hein, d'être en pleine conscience quand on médite. Ouais. Donc, ce que dit Husserl, c'est le fait que la conscience, en tout cas, ce qui nous met en rapport au phénomène, donc aux faits, aux objets, en fait, à tout ce qui nous entoure, c'est cette conscience. Et on ne peut pas, cette conscience ne peut pas tourner, si on peut dire, à vide, en fait. Je le dis comme ça. Dans...
Et elle est forcément dépendante des sens, du coup.
Les sens vont jouer, oui, les sens en phénologie vont jouer un rôle important parce que c'est que. Là, je vais plus loin qu'Edithstein, et plus loin qu'Husserl. On est là, un autre phénoménologue contemporain, qui est mort en 2002, qui s'appelle Michel Henry, et qui va en fait, montrer même que finalement, la vérité, en, fait, en tout cas le vrai concept de vérité, n'est pas dans la pensée, n'est pas dans le logos, mais c'est dans le sentir. Le pathos, c'est ce qu'il appelle le pathos.
Pathos.
Oui, pathos. Oui. Comme dans l'empathie, un pathos. Dans le pathos. Parce que c'est là, c'est ce qui, comme il dit, c'est ce qui ne peut nous mentir. Mm-hmm. La pensée, le logos, ce qu'on appelle aujourd'hui le logos, la pensée, je peux dire, parce que ça passe par le langage, la pensée. Donc, je peux mentir par la pensée. Mais par le pathos, c'est-à-dire par le ressentir, par mon expérience de la chose, si je touche ça, c'est ce qu'il appelle la vérité de la chair, en fait, la vérité de la chair. C'est que ça je ne peux pas mentir, là.
Et quand on dit qu'on se
ment
à soi-même,
ben, c'est... D'ailleurs, quand on dit ça, c'est pour dire, ben, c'est pas... Oui, oui. Se mentir à soi-même, c'est ça. Par la pensée, on peut le faire. Et c'est ça, exactement. Par la pensée, on peut le faire. On peut avoir des illusions.
Mais il y a des sens plus ou moins fiables aussi.
Oui, là, on est dans, on est chez Descartes là. Est-ce que nos sens sont fiables? Parce que pour Descartes, pas du tout. Et c'est là où on voit tout le contraire avec Michel Henry, c'est que. Pour Descartes, c'est la raison.
Oui, c'est ça.
Okay, c'est la pensée qui est fiable. Pas, nos sens nous trompent toujours. Pour Descartes, c'est même pas quelques fois. C'est que nos sens nous trompent toujours. Si nos sens nous ont trompés une fois, c'est qu'ils nous trompent toujours. C'est la conclusion voilà, à laquelle Descartes arrive. Et c'est pour ça qu'il faut se fier à la pensée. Mais Michel Henry, en fait, comme phénoménologue, qui a approfondi encore, qui a travaillé toute la pensée de Husserl, bon, bien sûr, hein, arrive à ce qu'il appelle une phénoménologie matérielle. Il dépasse la phénoménologie de Husserl, il l'appelle une phénoménologie intentionnelle. Et Michel Henry veut arriver à ce qu'il appelle une phénoménologie matérielle. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle la phénoménologie originaire. C'est-à-dire qui dépasse la conscience, qui va à l'expérience, au sentir, au pathos. Le pathos, c'est l'expérience que je fais dans ma chair, des phénomènes. Bon, là, on s'éloigne un peu.
En droit, le caractère intentionnel, je mets une importance absolument déterminante quant à l'action.
les motifs de l'action. Ou c'est intentionnel, ou ça ne l'est pas, mais c'est une dimension essentielle de la responsabilité.
Oui, et là, mais là, on est dans un autre sens de ce qu'est l'intention. C'est-à-dire, on est là, quand on parle du caractère intentionnel d'un acte, dans le cadre juridique ou même moral, éthique, c'est ce que je veux faire, c'est dans le sens de la volonté. Mais l'intention ici, dans le sens où intentio, dans le sens où on parle, Franz Brentano et Husserl, c'est le fait qu'il y ait un objet présent. Ok, c'est pas le fait de ma volonté là. Ok, c'est que la conscience est conscient de quelque chose, on n'est pas encore là au niveau de la volonté. Okay. C'est une autre forme d'intentionnalité, d'ailleurs, qu'une autre philosophe contemporaine a beaucoup écrit dessus, s'appelle Elisabeth Anscombe. Elisabeth Anscombe a écrit tout un livre sur l'intention. L'intention dans la morale, en fait, comment finalement aussi l'importance dans nos actes moraux, en fait, de l'intentionnalité, comment ça joue un rôle important. Mais ici, on parle de l'intention dans le sens où la conscience est tendue toujours vers un objet. Okay. Après, il y aura ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment, en fait, après on fait le lien, il y aura ce qu'il appelle la constitution. Et c'est ça le passage après. Après l'époque, il y a la constitution, c'est donc qui fait qu'on puisse émettre un jugement sur l'expérience que l'on fait, parce qu'on va décrire tel phénomène et on va constituer le phénomène, en quelque sorte. Alors, toujours sur la phénoménologie, on continue de comprendre un peu cette philosophie qui a attiré Wittgenstein et qui va aussi guider, conduire toute la réflexion de Wittgenstein pendant longtemps. Le principe ou le leitmotiv en fait de Husserl, en fait, ce que Husserl répétait à ses élèves et qu'il l'a écrit aussi comme principe, c'est... Je ne vais pas le dire en allemand parce que sinon ma prononciation sera catastrophique. Mais c'est le retour aux choses elles-mêmes. Aux choses elles-mêmes. C'est ça le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre de Husserl à ses étudiants, à ses élèves. C'est aux choses elles-mêmes. Donc c'est l'idée de ne pas d'abord... se tourner vers une sorte d'abstraction quand on fait l'expérience d'une chose, c'est de se concentrer, si on peut dire, entre guillemets, sur la chose, pas sur ses définitions, pas sur les idées ou la culture. En fait, tout cela aura son importance après, mais c'est la chose elle-même, la présence de la chose. Donc et lorsque Husserl dit aussi à ses étudiants de savoir décrire les phénomènes, c'est par exemple aller au phénomène dépouillé de son bagage conceptuel, bien sûr, de façon à évacuer, si on peut dire, le matériau peu résistant au extérieur et à aller au cœur de l'expérience. Si, par exemple, on écoute un morceau de musique, mon expérience, d'ailleurs, c'est peut-être l'expérience, une expérience fondamentale qui permet mieux de saisir ce que c'est la phénoménologie, je ne peux pas m'en tirer, en fait, en disant tout simplement que c'est beau. Bien sûr, c'est beau. Donc, ce que disait, ou bien ce à quoi Husserl voulait que ses étudiants arrivent, c'est à s'interroger sur cette musique, sur leur expérience de la musique. Par exemple, voilà, on peut trouver que c'est plaintif. On peut trouver que c'est solennel. c'est sublime. En tout cas, c'est, le fait, c'est de revenir sans cesse aux choses elles-mêmes.
Oui, mais entre c'est sublime et c'est beau, c'est pareil.
Oui, en fait, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas seulement me contenter de ça, mais c'est mon expérience. En fait, dire c'est beau, mais c'est m'interroger sur mon expérience de la beauté de la musique. Pourquoi c'est beau?
Qu'est-ce que ça me fait à
oui,
moi?
Oui, exactement. Si je dis c'est beau,
j'ai rien dit.
Pourquoi? Même si quand je dis c'est sublime, en fait, je dis mais c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette sublimité? En fait, comment je peux décrire en fait?
Pour le caractériser.
Oui. Par exemple, prenons en fait si on prend une définition, on va dire objective d'un morceau de musique. Je peux dire c'est une suite de notes et d'harmonie, voilà. Si je dis décris, est-ce que vous pouvez me décrire un morceau de musique quelconque, suite de notes où il y a l'harmonie, où il y a ok, mais ce que dit Husserl, c'est sûr que là il y a une description bien sûr très très objective, voilà, technique, scientifique si vous voulez en fait, mais c'est que ça ne dit pas mon expérience de la musique, de cette musique-là.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire si je ressens ça, c'est parce que les cordes font tel son? Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Parce que là, on est déjà dans l'analyse.
Mm-hmm. Alors, si on ressent, oui, on peut estimer si je ressens la musique, c'est parce que les cordes sont jouées de telle manière, voilà. Et tout ça entre dans la description. Alors, c'est pas l'analyse, c'est la description.
C'est la description.
Oui, oui. C'est la description. C'est d'accord. En fait, pourquoi je ne dis pas que c'est... Parce que je ne veux pas qu'on mette derrière l'analyse tous les concepts, en fait. Parce que souvent, en fait, l'analyse requiert un bagage conceptuel.
Okay? C'est tout pour ne pas être dans le monde des idées.
Oui. Quand vous dites le monde des idées...
Les idées en pensant à Platon.
Ah oui.
Pour ne pas être dans le concept, mais dans les éléments du réel.
Oui, en sachant que pour... Mais en sachant que pour Platon, le concept, c'est le réel. Oui, oui. Ça limite, mais ce n'est pas tout. C'est là où il y aura en fait la constitution après. C'est l'époque, en fait, aller aux choses elles-mêmes, c'est faire l'expérience de la chose, et donc ce retour sans cesse à la chose, et après, constituer mon expérience. Parce qu'après, il va falloir mettre des mots sur mon expérience. Après, il va falloir que je puisse transmettre. Si je dois en parler, faire de la philosophie, c'est parler finalement de ce que l'on ressent, de ce qu'on a expérimenté, de ce dont on a expérimenté. Mais je ne peux pas le faire, ce que Husserl dit, c'est qu'on ne peut pas se contenter de le faire en tout simplement en reprenant tout le bagage conceptuel déjà donné et passer à côté de l'expérience personnelle qu'on peut faire de la chose. En fait, pour dire en langage simple, c'est ça, c'est mon expérience personnelle de la chose.
Donc, c'est l'empirisme, ça, quand même, l'expérience personnelle.
Comment?
C'est l'empirisme, ça, quand
même. L'empirisme serait considérer que la vérité, c'est seulement l'expérience, c'est seulement mon expérience. Ok, c'est ça. Ça, l'empirisme, c'est ça. C'est dire que la vérité, c'est seulement mon expérience. Donc, il n'y a pas de réalité objective. C'est Hume, c'est ça. En fait.
Mais si vous prenez l'exemple de la musique,
oui.
On écoute un morceau et alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une appropriation. Comment on fait l'analyse phénoménologique, si je peux dire? Enfin, quelle est la démarche phénoménologique sur la musique? J'aimerais bien que vous alliez.
Oui, oui.
Après, vous avez dit, c'est pas dire simplement c'est beau.
Oui.
C'est dire quoi alors?
Ben, bah, c'est dire en fait ce que l'on. En fait, son expérience. Alors, ça demande aussi une capacité de savoir, d'être attentif, en fait, c'est ce qu'on disait, aux choses. Par exemple, je peux être à. Vous et moi, on peut écouter une musique, un même morceau, et on nous demande d'en parler. Chacun, oui. On a écouté la même musique. On va dire que ça, c'est tout à fait normal parce qu'on va dire qu'on n'a pas la même perception, la même expérience de la musique. Ouais, la même. Alors, c'est ça. Mais si on fait, on écoute la musique avec notre culture, mm-hmm. avec tout cela, et c'est ça que UCL veut. On doit se débarrasser, pour faire une vraie expérience de la chose, on doit se débarrasser de tout ça, de toute la culture. C'est tout à fait...
ça veut dire que dans le cas de la musique, on se débarrasse de l'émotion?
Ben, non, l'émotion va être mon expérience. Puisque je ne peux pas avoir l'émotion d'abord. C'est la musique va susciter une émotion en moi. C'est ça. Mais ce sera ça mon vécu. Soit ce sera une émotion de la tristesse, soit ce sera la joie, soit ce sera en fait... Mais ce sera ça mon vécu de la musique. Mais sauf que ce que dit UCL, ce qui peut influencer cela, c'est par exemple, je vais écouter par exemple du Bach. Mais j'ai toute une théorie de Bach. Bach, c'est solennité, c'est... En fait, du coup, je vais écouter Bach, mais c'est très banal de dire ça, hein. Je vais écouter Bach, mais avec déjà en moi ben, une sorte de a voilà, de l'a priori que c'est solennel, et ça... dit Husserl, ça peut m'empêcher finalement de faire une expérience, oui, peut-être.
Donc,
oui, exactement.
On écarte tout le côté émotionnel.
Ben non, pas émotionnel, culturel.
On ne l'écarte pas.
L'émotion naît de la culture.
Pas forcément, non, pas
nécessairement. Je pense que l'émotion va naître plutôt de l'expérience que je vais faire.
Mais de des expériences préalables.
Eh ben c'est ça, il ne faut pas. Il ne faut pas les expériences préalables, ouais. Maintenant, dans l'expérience actuelle, viennent m'empêcher de faire l'expérience de la chose elle-même.